Gilles Denigaud nous accompagne parce que on avait envie d'en savoir plus sur cette personnalité hors norme de notre région, exceptionnelle, syndicaliste nazérien, docker, qui a été à la CGT, puis en rupture, militant écolo. Alors, Gilles, c'est intéressant parce que dans une précédente émission, vous avez dit, on a commencé par parler de ce qui vous a motivé. Vous êtes lancé par la question sociale. Ensuite, on a parlé d'économie redistributive, qui a été un peu votre engagement politique, puis chez les écolos, de votre métier de docker, de syndicaliste docker, de tout ce que vous avez fait pour développer. Parce qu'en réalité, quand on dit Gilles Denigaud, syndicaliste docker, on s'imagine le gars qui est avec une pancarte et qui n'est jamais content. Ben, comme vous racontez, vous êtes allé voir les boîtes en tapant, en disant pourquoi vous n'êtes pas client chez nous, pourquoi vous déchargez à l'autre bout, à 500 km hors de France, quelles conditions vous voulez, quel contrat, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, allez, venez, signez, et vous avez développé la clientèle pour le port, dans le seul but aussi que ça fasse, comme pour une entreprise privée, plus de chiffre d'affaires et donc que les salariés soient mieux payés. Plus, voilà, c'est tout. Je voulais revenir sur René Dumont. On a dit qu'en 1974, vous avez voté René Dumont face, alors que vous étiez à la CGT à l'époque, ce qui n'était pas très apprécié. On a bien vu qu'il y a eu le premier syndicat, il y a eu Solidarno, vous l'avez soutenu à fond, alors que les communistes n'étaient pas très pour. Que pensez-vous de l'écologie aujourd'hui, notamment de ce qu'on dit sur René Dumont? Il y a une partie de la gauche, qui a pas mal critiqué les écologistes, et surtout les gens comme René Dumont, on va remonter, parfois même en disant qu'il avait parfois des idées de droite, etc., en opposition finalement aux communistes qui étaient pour le nucléaire, l'industrie, on produit. Ouais. Et certaines théories de René Dumont ont été accusées par, vous avez vu souvent cette polémique, d'être plutôt à droite par des gens. Comment vous jugez tout cela?
Franchement, oui. Ce genre d'accusation... Je les lis, je les entends, et je considère que ceux qui les émettent sont bien souvent des nains par rapport à René Dumont, que j'ai connu, même allé le voir un peu de temps avant son décès à l'hôpital à Paris. Bref, je suis resté en contact quand même avec René. Alors c'est toujours rigolo, quoi. Il y a quelques années, les écologistes et d'autres, on se servait de René Dumont, considérant que ça pouvait être une bonne chalandise pour amener des électeurs. Hein, on va parler comme ça. Et puis aujourd'hui, avec les alliances surréalistes que font politiquement les écolos, je le dis, je pense à la NUPES, hein, la NUPES qui en réalité est pilotée par la France insoumise. Hein, c'est comme si moi, on m'avait demandé de faire l'écologie avec le PC il y a 40 ans ou 50 ans. Hein, aujourd'hui, ils le font, tête baissée, sans regarder devant eux, avec Mélenchon en disant, de toute façon, un jour, il arrêtera. Et puis forcément, ça sera nous. Hein, comme si les autres, à la NUPES, hein, que ce soit les Hautains, Ruffin et... panneaux et j'en sais rien, les corbières et compagnie, comme s'ils allaient dire, oui, nous, on s'efface, il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'attends, j'espère vivre assez longtemps, de voir de quelle manière ils vont se battre, de quelle manière ils vont se déchirer, et quel sera le ring qui sera choisi entre eux. Parce que ça va venir. Hein, mais ça, c'est pas trop le problème. Donc, René Dumont, il a développé des problèmes. C'était un lanceur d'alerte plus qu'un politique. Et un lanceur d'alerte. Il a dit attention, voyez là, l'eau, un jour, on n'en aura plus. Il va devenir très cher avec son verre d'eau et son pull au vert rouge, René Dumont, à la télévision. Oui, nous y sommes, 50 ans après la bagarre de l'eau.
Qu'est-ce qui vous a motivé chez les écologistes? C'est la défense de la nature, où ça va beaucoup plus loin, c'est la défense de la proximité, au sens même de la production, achetée à la ferme.
Oui, moi, peut-être c'est lié, j'en sais rien, peut-être c'est lié à mes racines de la campagne, paysan, le jardin, la terre, peut-être. Mais non, ça ne suffit pas comme explication politique. Pour moi, je ne suis pas simplement un environnementaliste au sens écolo du terme. Je suis un écologiste, c'est-à-dire l'écologie englobe tous les problèmes. Et donc comment on va résoudre ce problème sans qu'il y ait un impact considérable sur l'empreinte écologique? Je vais faire une confidence là qui va faire bondir les derniers rescapés qui me parlent encore à peu près parce que je ne suis pas totalement pestiféré. Là, je vais leur donner du grain à moudre. Je me suis battu corps et âme contre le nucléaire, à Plogoff, au Carnet, au Pèlerin, partout, corps et âme. Parce que le traitement des déchets, parce que la radioactivité, le discours traditionnel maintenu par tous les écolos aujourd'hui. Bien. Mais aujourd'hui, je me pose la question, je ne suis pas pro-nucléaire, mais je me pose la question, comment aujourd'hui, au regard du dérèglement climatique, dont on sait que les gaz à effet de serre, le CO2, est produit par les énergies fossiles, etc., le charbon, blablabla, hein, le pétrole, l'agriculture, le transport, bon. Mais pas le nucléaire. Pas le nucléaire. Le nucléaire n'est pas émetteur de CO2. Donc aujourd'hui, est-ce que la priorité, c'est la sécurisation nucléaire, donc on reste anti-nucléaire comme il y a 50 ans, Gilles Denis Goavec, ou est-ce qu'on construit un bouquet énergétique qui dit la priorité, ce sont les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables beaucoup plus vite que ne le fait le gouvernement aujourd'hui. Mais sans supprimer la question du nucléaire, parce qu'il faut bien produire de l'électricité. Tout le monde veut, parmi mes amis qui vivent beaucoup dans des zones de confort appréciables, hein, mes amis ou mes ex-amis écolos, tout le monde veut que ce soit vertueux, mais personne ne veut changer son mode de vie. On est content quand on arrive chez soi et qu'on appuie sur le bouton et que la lumière s'allume. Bon, voilà. Moi, s'il fallait retourner à des grandes difficultés et allumer la bougie ou la lampe à pétrole, ça ne me gênerait pas trop. Aux 10 dernières années de ma vie, ça me rappellerait mon enfance. On était très pauvres. Donc, je ne serais pas perdu, hein, ce qui ne serait pas le cas de tout le monde.
Ah ben, mais si le smartphone, on ne peut plus le charger le soir, là, ça serait la panique générale.
On ne pourra même plus communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on aime beaucoup sans les connaître. Mais voilà, donc il y a aujourd'hui la question du nucléaire, je ne la regarde plus. Je ne la regarde plus comme je la regardais avant que nous ayons compris avec certitude les rapports du GIEC et d'autres que le dérèglement climatique était quelque chose de dangereux. Alors, il faut arrêter. Hein. Pas dangereux pour la planète. La planète, elle s'en tamponne de nous. Elle est juste dangereuse pour nous, pour l'humanité, pour les citoyens qui vivent sur la planète.
J'ai une grande leçon au moment du confinement. Qu'en pensez-vous quand on a vu que la Terre s'est arrêtée pendant 2 mois?
C'était merveilleux.
Alors justement, la Terre nous a montré qu'elle avait une capacité de
résurgence, ouais,
incroyable. Ah ben oui. Ça veut dire que des zones qu'on croyait être condamnées, on a vu revoir des oiseaux, des poissons dans des zones où ils ne revenaient plus, ou des animaux. Ça s'est fait en 2 mois. Donc ça veut dire qu'en fait, même si la Terre a été quand même un peu salopée, on voit que finalement on s'arrête 2 mois et tout redevient. Donc je me suis dit, c'est pas un programme politique au niveau de l'ONU, que tous les États du monde se disent une fois tous les 10 ans, par exemple.
Oui, notre société est réparable. Nos sociétés sont réparables.
C'est ça qui est fantastique. Voilà.
Hein, moi, je pense qu'elles sont réparables. Mais il faut arrêter l'obstination. Pas de CO2 et pas de nucléaire. Ok, l'électricité, parce que l'électricité, les gens pensent juste que c'est allumé chez eux, ben c'est le chauffage. Non, les entreprises, l'économie, le dynamisme économique fonctionne avec l'électricité et avec l'énergie.
Oui, mais pourquoi l'écologie?
Écoute, c'est quand même un sujet très important. Comment on peut financer demain, avec les fonds publics, la transition écologique, isoler les logements, faire ceci, etc. C'est des milliards d'investissements, des milliards si on est honnête, si on n'a pas une économie dynamique. Et comment on peut avoir une économie dynamique si d'un seul coup, on supprime une partie de l'énergie, mais de manière brutale, qui permet encore ce développement économique? Alors après, ce sont les orientations que nous prenons. Et effectivement, cette récréation que nous avons eue pendant le Covid et le confinement, elle a été informative de ce qu'il est possible de réparer des dégâts que nous avons faits. Mais on ne peut pas, à coup de slogan, ce que je reproche aux écologiques, ce sont les rois du slogan. Ce matin, je lisais le journal, je change de truc, je lisais le journal vite fait. Et la chasse. Les écologistes, on ne veut plus qu'il y ait la chasse le dimanche. Alors moi, je précise, je ne suis pas chasseur, pas du tout. Hein. Mais bon, les chasseurs, ce n'est pas des assassins par nature. C'est comme les automobilistes. Il y en a qui tuent des gens. Ce n'est pas bien. Et voilà. Ça peut arriver. C'est des accidents. Hein. Mais la chasse. protéger les animaux et tout. Donc, non, non, on n'est pas contre un député écolo, ça me fait doucement rire. On n'est pas pour supprimer la chasse, juste le dimanche.
Bah hein, oui, mais bon.
Le truc. Oui, ok, bon, très bien. Mais une loi, une loi, une loi. Jamais vous arriverez à mettre la société d'accord sur ce genre de truc. Par contre, je voyais aussi que le maire d'une commune de 20 000 habitants, Saint-Dié-des-Vosges, bah, il a réuni tous les chasseurs de sa commune, il a dit « j'ai un problème ». On a deux grandes zones forestières sur notre commune. J'aimerais bien que les gens s'y promènent le dimanche. Est-ce que vous êtes prêts à faire un effort? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il n'y a plus de chasse le dimanche. Sur ces zones forestières, les gens pourront aller se promener. Le dimanche matin, oui, mais le dimanche après-midi, il y a quartier libre pour les promeneurs. Alors, est-ce qu'on impose par la loi et on fracture la société?
Ou un agrément peut se faire au
cas. Ou est-ce qu'on dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue? Et les écologistes ne sont pas des champions du dialogue. Je ne les aurais pas vus être de brillants syndicalistes hein, pour négocier et enrichir le dialogue social.
S'ils sont impopulaires aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils donnent l'impression d'emmerder tout le monde? Il faut interdire, il faut ceci.
Mais c'est-à-dire qu'ils veulent tout imposer et ils ne veulent jamais négocier. C'est ce que je viens de dire. J'ai pris cet exemple de la chasse, on peut en prendre d'autres. Je me souviens d'un très bon ami... eurodéputé écologiste à Notre-Dame-des-Landes, pendant le combat, j'étais dans l'assistance, plein de monde, il faisait des effets de manche oratoire avec un public qui est conquis d'avance. Il n'y a rien de plus facile. Eh bien, il n'y avait pas trois phrases sans taper sur la FNHEA. À juste titre, souvent, sur les dérives de la FNHEA.
Ils font toujours des effets de manche quand il y a des coups.
Mais, à
droite comme à gauche, quand le public
mais
est
je
conquis
disais,
d'avance, c'est
mais
facile.
Je disais, mais arrête. T'as personne à convaincre ici. C'est repris par les radios, les journaux, tu tapes sur la FNSEA. Comment tu vas faire la transition de l'agriculture, la transition écologique de l'agriculture, en critiquant la FNSEA? C'est comme si tu allais discuter avec la CGT dans le nucléaire, hein, à Cherbourg ou ailleurs, avec ta pancarte, il faut fermer l'endroit où tu travailles. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ils savent pas faire. Ils savent pas négocier. Ils savent pas chercher des compromis. Le monde agricole, il faut le mettre avec soi, pas contre soi. Les agriculteurs sont endettés, beaucoup, à la FNSEA. Ils ne sont même plus propriétaires de leur ferme. Ils n'ont plus qu'une idée de propriété pour beaucoup d'entre eux, à part les plus gros. Hein. Parce qu'en réalité, leur propriété agricole, leurs tracteurs et toutes leurs machines, c'est le Crédit Agricole qui en est propriétaire. C'est une idée de propriété. Mais discute avec ces gens-là de la vie qu'ils mènent, si tu es un écolo. Va discuter avec eux. Essaye de les comprendre. Et construisez une autre agriculture avec eux. Pas contre eux. C'est ça qui me fâche avec mes amis écolos. Entre autres. Alors, je parle pas des dérives féministes et toutes les conneries de Sandrine Rousseau. Ça n'a aucun intérêt.
Sur le wokisme, etc.
Oui.
Point. Gilles de Nigaud, une personnalité, et c'est un bonheur que de le découvrir, cette personnalité nazérienne qu'on permet de découvrir émission par émission. Gilles de Nigaud, qui est mon invité.